Les deux orphelines, première partie, chapitre 9. Quand il se retrouva seul, à l'endroit où il allait livrer sa bataille, la Bille Lafleur alla tout d'abord s'asseoir sur le parapet du pont Neuf afin de prendre ses dernières dispositions. Il commença par retirer de sa poche la bourse que lui avait donnée le marquis en manière de glu. Il l'ouvrit délicatement et y prit 3 pièces d'or. « Ça, c'est pour mes chenapans, » dit-il en introduisant les pièces dans le gousset de son gilet de livrée. « Il ne faut pas en laisser voir davantage. Je les connais, mes gaillards. Ils se montreraient difficiles. »« Maintenant, » continua-t-il, « il s'agit de les trouver, pourvu qu'il n'ait pas déjà été roué vif depuis notre dernière affaire. » La Fleur avait quitté son poste d'observation et, tout en se dirigeant vers le cabaret qui faisait l'encoignure du quai Conti, il pensait « Si mes gaillards sont encore vivants, ils sont assurément ou en prison ou dans ce cabaret. » L'établissement dont il s'agit était une de ces maisons borgnes où les jeunes débauchés ne dédaignaient pas de venir manger des huîtres en les arrosant du bon petit vin blanc d'Auxerre. Pour les besoins de cette clientèle de luxe, le cabaretier avait fait placer des tables sous les arbres séculaires épargnés lors des démolitions nécessitées par la construction du quai Conti. Par exemple, dans le cabaret proprement dit, la clientèle se contentait d'une pièce enfumée, de tables massives et de tabourets enchaînés aux dites tables, par mesure de précaution, parce qu'après boire, les têtes s'échauffant, on y lançait tout ce qui tombait sous la main, et principalement les tabourets de l'établissement. La Fleur s'arrêta sur le seuil, parcourut l'intérieur de la salle d'un regard circulaire, et, ayant reconnu ceux qu'il cherchait, il alla s'attabler avec eux dans un coin tout au fond du cabaret. La conversation fut courte du reste. On s'entendait toujours vite avec des particuliers de cette espèce. Moins de 10 minutes plus tard, la Fleur quittait ses aides, comme il les appelait, et cela après leur avoir donné toutes les indications nécessaires. « Voilà qui marche comme sur des roulettes, » se dit-il en se frottant les mains. « Ces deux gibiers de potence m'attendront, comme c'est convenu, auprès du carrosse. »« Ah, mais... et le carrosse ? Il faut m'assurer qu'il n'est pas en travail. » Ce diable de la Fleur avait des expressions à lui. Le loueur habitait à quelques 100 mètres aux environs des Halles. La Fleur consulta le coucou du cabaret. « J'ai encore une bonne heure, » dit-il. « C'est plus qu'il n'en faut. » Et, allongeant le pas, il s'élança sur le pont Neuf, marchant comme un homme affairé, bousculant les passants, sans s'inquiéter des injures qu'on lui décochait. En quelques minutes, il arrivait chez le loueur. « Ah !» lui dit l'homme, « nous avons un petit voyage d'agrément à faire. C'est à merveille. Je ne sais plus ce que pensent ces messieurs de la noblesse. Voilà déjà près de 3 jours que mes chevaux n'ont pas travaillé. On n'enlève donc plus de jeunesse, alors ?»« Patience, patience !» répondit la Fleur en glissant 2 pièces d'or dans la main du loueur. « Voici déjà un petit commencement. Pour quelle heure l'affaire ?»« Dans 1/2 heure. »« Où ça ?»« Au coin de la rue Dauphine. » »« Et du quai ?»« Oui, presque en face du cœur volant. » »« Entendu. » »« Ah, y aura-t-il de la casse ?» « C'est que la dernière fois, on m'a brisé une vitre. »« Aujourd'hui, mon bonhomme, on ne se débattra pas. Je m'en charge. » Et la Fleur se retira en disant « Maintenant, ce n'est pas tout. Il faut changer de costume. » Il longea la rue des Halles et arriva à l'entrée du marché, juste devant la boutique d'un fripier qui avait pris pour enseigne à la police polonaise. La Fleur était si avantageusement connue du marchand de friperie que celui-ci l'accueillit avec force salutation. « Nous allons dans le monde ce soir ? » demanda-t-il en faisant la bouche en cœur. « Non, il me faut une défroque de bourgeois. »« Riche ? » ?»« Aisé, simplement. Voyons ce que vous avez de passable. » Le fripier fit asseoir son client et lui présenta 2 costumes. On tomba bientôt d'accord. La Fleur était passée dans l'arrière-boutique. Il en ressortit complètement déguisé et, se plaçant devant une glace, il fit, en pantomime, la répétition de la scène qu'il se proposait de jouer. Certes, si Henriette l'avait remarqué par hasard au moment de la halte à la montée, il lui serait, pensait-il, bien difficile de le reconnaître. Satisfait de sa transformation, la Fleur quitta la boutique. Mais il n'avait pas fait 100 pas qu'il accourut tout haletant chez le fripier. Vous avez donc oublié quelque chose? Lui demanda le marchand. Oui, la glu, répondit le domestique avec un gros rire. En effet, la fleur venait de s'apercevoir qu'il avait oublié dans la poche de son gilet le petit flacon de cristal et la bourse du marquis. Cette fois, il se dirigea rapidement vers le pont neuf. Placé au centre de la ville, le pont neuf a toujours été la grande voie de communication entre les deux rives de la Seine. Mais vers la fin du siècle dernier, il était aussi, et depuis fort longtemps, un but de promenade et de plaisir pour tous les Parisiens, même des quartiers éloignés. C'était le rendez-vous des joueurs de gobelets, des charlatans, des diseuses de bonne aventure, des marchands d'oiseaux et des tondeurs de chiens. C'était au pont neuf qu'il fallait aller manger la dernière matelote arrosée de petits blancs d'Auxerre ou de cidre de Normandie, et surtout pour faire connaissance avec ce mets délicieux, la pomme de terre frite, qui venait de faire son apparition et de révolutionner la cuisine bourgeoise. Enfin, c'était autour de la statue d'Henri IV que les ménestriers en vogue, tels que le fameux Savoyard, chantaient et vendaient ces refrains grivois et populaires qui, de là, gagnaient les ateliers, les cabarets et les barrières, en passant par plus d'un salon, et que l'on avait baptisé Pont-Neuf. À de certaines heures, et surtout les dimanches et jours de fête, l'affluence était telle que la circulation devenait presque impossible. Les coureurs de guinguettes et de tripots, les ouvriers avec leurs femmes et leurs enfants, les grisettes et les étudiants, les grenadiers et les dames de la halle coudoyaient les bourgeoises et les bourgeoises des quartiers riches et jusqu'aux beaux messieurs de la cour qui ne dédaignaient pas de se mêler à cette foule joyeuse où tout était permis. Inutile d'ajouter que dans ce tohu-bohu, les mendiants et les filous trouvaient une besogne facile et que la police laissait tout faire, ne pouvant rien empêcher. C'était vraiment un spectacle des plus curieux, mais qui ne durait que quelques heures. Dès que le jour commençait à baisser, la masse des promeneurs se dispersait rapidement, chacun rentrait chez soi pour se mettre à table. Et ce beau pont neuf, si animé, si bruyant, devenait tout à coup silencieux et presque désert. Les marchands fermaient boutiques, les charlatans et les chanteurs pliaient bagages, on ne voyait plus que des passants affairés qui se croisaient sans mot dire, des ivrognes titubant sur les trottoirs, des fiacres, quelques voitures bourgeoises, des charrettes portant leurs provisions aux halles ou au marché à la volaille, et, de temps en temps, des diligences emmenant leurs voyageurs hors de Paris ou les y amenant, comme allait le faire, le coche d'Evreux, dont les bureaux étaient installés à l'angle du quai et de la rue Dauphine. Mais avant d'assister à son arrivée, voyons un peu ce qui se passait aux alentours. C'était un samedi, et ce jour-là, on attendait généralement un grand nombre de provinciaux. Aussi, les cochers de fiacres se hâtaient-ils de prendre place sur le quai, les commissionnaires et les décrotteurs s'installaient le plus près possible de la porte du bureau. Des querelles s'élevaient alors, dont la fin était toujours la même, des calottes d'abord, et ensuite un demi-setier chez le cabaretier du coin. Quant aux mendiants, et Dieu sait quel en était le nombre, les uns assis sur les bornes ou couchés par terre, faisaient un somme en attendant la pratique. Les autres continuaient à poursuivre leur monde, et parmi ceux-là se trouvait une vieille femme qui n'arrêtait pas de tendre la main. Quelques sous attrapés lui semblaient toujours bons à glisser dans sa poche. « En v'là une chansarde !» disait un vieux bossu en la montrant du doigt à une autre mendiante assise à côté de lui. « Si elle met de côté tout ce qui tombe dans ses vieilles pattes, elle doit avoir un fier bas dans sa paillasse. »« Elle, plus souvent !» Et le cabaret, et l'eau de vie, et son grand bandit de fils, un osseur de la pire espèce qui ruinerait un fermier général. Elle s'entend joliment au commerce, et qu'elle est bien nommée la sorcière. Le fait est qu'elle en avait toutes les allures. Une face maigre et ridée, un front plat et bas à moitié couvert par une épaisse chevelure grise que le peigne n'avait jamais démêlée, des yeux petits et méchants, un nez pointu, aux narines noircies par le tabac, et des lèvres repoussées en avant par 5 ou 6 dents déracinées. Voilà pour la tête. Un dos voûté, des bras décharnés, des mains longues, osseuses, dont les doigts difformes ressemblaient à des griffes de singe, des pieds larges qui traînaient dans d'affreuses chaussures éculées, et pour recouvrir cet ensemble misérable, des hardes aussi sales que déguenillées. Voilà, sans la moindre exagération, le portrait de la mendiante qui, depuis des années, exploiter le quartier du Pont-Neuf. Quand les autres mendiants lui reprochaient sa chance, elle leur riait au nez pour toute réponse et, tournant les talons, elle se disait à elle-même « Il n'y en a pas comme toi, ma vieille Frochard, pour attendrir ces brigands de bourgeois. » Un vieux monsieur venait juste de sortir du bureau. Elle s'empressa de lui tendre la main et prenant sa voix pleurâtre. « Mon bon monsieur, lui dit-elle, n'oubliez pas une malheureuse infirme qui a 7 enfants à nourrir. Allez au diable! Que le bon Dieu vous le rende, mon doux seigneur !» Et elle s'éloigna en faisant la grimace et en montrant le poing au doux seigneur qui avait tiré sa montre pour voir l'heure et qui regardait à droite, à gauche, comme quelqu'un à qui l'on a donné rendez-vous et qui se fait attendre. Enfin, il fit un geste et poussa un « Ah !» qui voulait dire, évidemment, « Voilà mon homme !» Et d'un pas précipité, il s'avança vers un jeune élégant qui descendait du Pont-Neuf. « Tout va bien !» lui dit-il en l'abordant. « La fleur ?» s'écria le marquis de Presles. « Du diable si je t'aurais reconnu !»« Où as-tu pêché cet accoutrement de patriarche ?» Je l'ai loué chez un fripier des Halles. Et regardez-moi cette tournure et cette perruque. Ai-je assez l'air d'un parfait honnête homme? Déguisement complet. Si avec ça je ne gagne pas la confiance de nos petites demoiselles. Eh bien, qu'as-tu fait? Où en es-tu? Ah, je ne me suis pas amusée en chemin. Pendant que mon noble maître rentrait tranquillement chez lui pour quitter ses habits de voyage, j'ai fait de la besogne. Et comme je viens de le dire à monsieur le marquis, tout va bien. J'ai loué une voiture qui va venir attendre mes ordres à 4 pas d'ici. 2 bons chevaux et un cocher rompu à ces sortes d'aventures. Il a déjà travaillé pour monsieur le marquis. Très bien, la fleur, mais si je suis venue ici, c'est que je ne pouvais plus contenir mon impatience. Et si par malheur nos voyageuses se méfiaient de toi, si elles refusaient de te suivre? Eh bien, j'ai là, sur le quai, 2 ou 3 de mes amis, d'excellents garçons, qui se mettraient au feu pour moi, et je n'aurais qu'un signe à faire. À merveille. Seulement, je me demande ce que nous allons faire du monsieur qui doit se trouver là, à l'arrivée du coche, ce monsieur que nous ne connaissons ni l'un ni l'autre. Tu n'as encore vu personne qui lui ressemble? Non, mais il ne tardera pas, sans doute, et je me charge de lui boucher les yeux. Encore une fois, toutes mes précautions sont prises. C'est bataille gagnée d'avance. Et maintenant que monsieur le marquis s'en est assuré par lui-même, si j'osais me permettre de lui donner un conseil... Parle. Voyons, je lui dirai de rentrer chez lui et de me laisser faire. À quelle heure le coche doit-il arriver? Vers 8 heures. La nuit se rapproche, ce qui nous aidera beaucoup. Ah, que le temps va me sembler long! Ça se comprend, une si jolie fille. J'en suis fou. Et s'il me fallait renoncer à elle... Renoncer? Allons donc, ce serait déshonorant pour vous et pour moi. Mais plus un mot. Et il montrait au marquis un vieux monsieur d'une mise tout à fait bourgeoise et qui, depuis un instant, se promenait, son parapluie sous le bras, à l'entrée de la cour où la diligence devait s'arrêter. « Crois-tu que ce soit lui ? » dit le marquis. « Il en a bien la tournure. Voyez, il regarde l'horloge, il consulte sa montre. « C'est lui, monsieur, c'est lui. De grâce, partez vite et fiez-vous à moi. En restant ici, vous pourriez peut-être compromettre le succès de notre affaire. La belle vous reconnaîtrait assurément. Allons, soit, je pars. Je renonce à la voir, et je vais t'attendre au pavillon du Bel Air. Mais si tu ne reviens pas avec elle, je te chasse. Et si je vous la ramène? Tout ce que tu voudras, je te l'accorde. » Et sur cette promesse qui fit sourire le bon Lafleur, notre marquis s'éloigna, le cœur rempli des plus douces espérances. Lafleur ne s'était pas trompée. Le nouveau venu était bien l'homme qu'il avait intérêt à découvrir. C'était à lui que la dame Martin d'Evreux avait adressé et recommandé nos 2 orphelines et, fidèle à sa promesse, il venait les attendre pour les conduire chez lui. Elles y seraient parfaitement en sûreté et d'autant mieux accueillies que leur présence allait être pour les époux Martin une source charmante de distraction quotidienne. Elle mettrait fin à ce tête-à-tête conjugal dans lequel ils s'endormaient l'un et l'autre depuis si longtemps, car il en était pour eux, comme pour la plupart des petits commerçants retirés, qui se sont tués de travail pendant des années afin d'amasser de quoi abandonner leur boutique et qui se meurent d'ennui dès qu'ils l'ont quitté. Pour les époux Martin, les journées passaient encore assez vite. Madame s'occupait de son ménage, Elle allait aux provisions, elle raccommodait son linge. Monsieur se promenait sur les quais, aux Tuileries. Il allait faire de la politique à la petite Provence et se moquer des tendances nouvelles. Mais la nuit venue, que faire? Ah, s'ils avaient eu des enfants! Une fille, rien qu'une fille, elle eût été la joie de la maison. Et voilà qu'il leur en arrivait d'eux. Ne fût-ce que pour quelques mois, quelques semaines, ce serait toujours ça de gagné. C'est donc dans cette disposition d'esprit que M. Martin était venu au-devant du coche et, comme il se trouvait de beaucoup en avance, il se promenait de long en large devant la porte pour passer le temps. La fleur, qui ne le perdait pas de vue, se mit à faire de même et, après qu'ils se furent croisés deux ou trois fois, il se décida à entamer la conversation. Monsieur attend sans doute, comme moi, l'arrivée du coche d'Evreux. Oui, monsieur. Eh bien, je pense que nous avons une bonne faction à faire, car il n'arrivera pas avant 9 heures. Vous croyez? Je viens de m'en assurer au bureau, à l'instant même. Un gentilhomme qui est arrivé en poste a bien voulu prévenir qu'un essieu de la voiture s'est brisé aux environs de Rambouillet et qu'un retard de 2 heures au moins serait la conséquence de cet accident. Un essieu cassé? Ah, mes pauvres petites Normandes, quelle frayeur elles ont dû avoir! Ah, ce sont des jeunes filles que vous attendez? Oui, monsieur, deux orphelines qui doivent avoir dans les 17 ou 18 ans et que l'on dit fort jolies. Vous ne les connaissez donc pas? Nous ne nous sommes jamais vues. Parfait, se dit tout bas la fleur. Mais elles nous ont été recommandées par une cousine de ma femme et c'est chez nous qu'elles vont habiter. Ce sera une grande sécurité pour ces jeunes personnes. Et une grande distraction pour nous, pour moi principalement, quand on vit de ces petites rentes dans un troisième de la rue Guénégaud. Ce n'est pas gai. Seul, toujours seul, vis-à-vis de sa femme. C'est triste. Satané coche, reprenait le vieux Martin en frappant du pied. 2 heures de retard. Qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là? C'est ce que je me demande aussi, disait la fleur d'un air navré. Rentrer chez moi? C'est peut-être ce que nous aurions de mieux à faire l'un et l'autre, cher monsieur. C'est possible pour vous, monsieur, mais pour moi, il me faudrait subir les jérémiades de Madame Martin. Et j'en ai assez de cette chanson-là. Je vais tout bonnement flâner sur le quai, regarder les images. Je me paierai une tasse de moka ou un petit madère. Tiens, c'est une idée, s'écria la fleur. Et ça m'en fait pousser une autre. Monsieur, aimez-vous le piquet? Je l'idolâtre, monsieur, mais ma femme ne peut pas le souffrir. De plus, j'ai horreur du trictrac. Mais comme ma femme l'adore, j'ai à l'heure qu'il est 25 ans et demi de trictrac. Eh bien, monsieur, si nous entrions là dans le café en face, il y a un petit jardin avec de jolis bosquets. Je les connais. Nous en prendrions un, bien abrité, parce qu'à nos âges, il ne faut pas plaisanter avec les courants d'air. Oh, mais non! Et nous ferions 100 ou 200 pour jouer notre madère. Cette proposition était assez agréable au sieur Martin, cependant il hésitait. Ça y est-il? Mon Dieu, monsieur, j'accepterai avec le plus grand plaisir, mais je craindrais en m'éloignant. Soyez donc tranquille, une piécette au garçon et il nous préviendra de l'arrivée de la voiture. Oh oui, c'est essentiel, car pour rien au monde je ne voudrais. Fiez-vous à moi, je n'ai pas envie non plus de manquer le coche. Cette aimable plaisanterie avait fait éclater de rire le bon monsieur Martin et triompher de ses hésitations. Vous êtes gai, monsieur, disait-il à la fleur qui lui avait pris le bras et l'entraînait. Vous êtes très gai, j'aime ça. Ce n'est pas comme ma femme qui est si. Vraiment? Excellente personne, mais quelquefois bien agaçante. Il y en a donc comme ça? Monsieur Martin était, comme on le voit, un de ces types de bourgeois naïfs, confiants à l'excès et qui ne manquent jamais l'occasion de bavarder. Du premier coup d'œil, la fleur avait jugé son homme. Et le gredin s'était dit: Va toujours, mon bonhomme, dégoise tout ce que tu voudras sur le compte de cette excellente Madame Martin, qui adore le trictrac. Tout à l'heure, je vais te jouer une partie de ma façon que je te défie bien de gagner. Et le valet du marquis de Presles souriait à part soi, de l'air d'un homme qui se sent certain de réussir. Sans plus de façon, il avait pris le bras de son compagnon. Monsieur Martin allait peut-être s'étonner de cette familiarité, mais la fleur ne lui laissa pas le temps de se reconnaître. Il l'avait, tout en causant, entraîné, ainsi que nous l'avons dit, jusque devant la porte du cabaret. Mais au moment d'y pénétrer, le bourgeois manifesta quelque hésitation. Il ébaucha même ce jeu de physionomie de l'écolier qui, sur le point de commettre une frasque, s'assure que personne ne peut le surprendre. « Eh bien, ricana la fleur, qu'est-ce que vous avez donc? Est-ce que vous craignez qu'il ait pris à Madame Martin la fantaisie ?»« De me suivre? Oh, Madame Martin attend mon retour, j'ose le dire, avec la plus grande impatience. Et cela pour deux motifs. » « D'abord, insinua la fleur, pour faire sa partie de tric-trac. C'est vrai, mais aussi pour embrasser ces deux jeunes filles qui nous arrivent d'Évreux. Ah, madame, votre épouse adore les enfants. Oui, monsieur, c'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Elle ne s'est, je crois, passionnée pour le jeu de tric-trac que par des œuvrements. Ah, si elle avait pu être mère, j'aurais évité bien des parties de ce jeu qui fait mon désespoir de chaque jour. Eh bien, venez bien vite vous dédommager en faisant quelques bonnes parties de ce piquet que vous aimez tant. » Mais cette fois encore, la fleur fut trompée dans son espoir d'entraîner enfin ce récalcitrant bourgeois. La Frochard, revenant à la charge pour harceler les passants, s'était avancée en murmurant de cette voix traînante et pleurarde qu'elle savait prendre pour toucher le cœur des passants. « Mais bon, messieurs, n'oubliez pas !» Le valet fit un geste pour repousser la mendiante. Et brutalement, il lui dit « Ah, ça, c'est encore vous ? Mais vous ne m'avez encore rien donné, mon bon monsieur. Je ne donne jamais rien aux vieilles. » Cette épithète de vieille qu'on venait de lui lancer au visage avait, pour ainsi dire, médusé la mendiante. Elle adressa sournoisement un regard haineux à l'homme qui l'avait repoussée. Mais reprenant tout aussitôt son air patelin, elle tourna les yeux vers Monsieur Martin avec cette expression cafarde et ce sourire faux qui réussissent si bien auprès des gens faciles à apitoyer. Monsieur Martin tira sa bourse, dont il fit glisser les deux anneaux, pour y prendre un sou qu'il tendit à la vieille femme. La fleur haussa imperceptiblement les épaules, et par ce geste il manifestait l'impatience qui commençait à le gagner. C'est qu'il avait promis à son maître de réussir, et il se demandait si le hasard n'allait pas se mettre contre lui dans la partie engagée. « Voyons, dit-il en reprenant le bras du gros homme dont il s'était improvisé l'ami, « est-ce que nous n'en avons pas fini avec nos œuvres de charité? Si vous désirez faire quelques cents de piquet, il n'y a plus beaucoup de temps à perdre. Entrons !»« Entrons !» répéta M. Martin. Pour plus de sûreté, la fleur fit passer son compagnon le premier et s'adressant à la Frochard. « Allons, au large, la vieille !» lui dit-il de nouveau. « La vieille !» grommela celle-ci. Quand on prend de l'âge, adieu le commerce, adieu le gagne-pain. Puis, réfléchissant, c'est tout de même vrai que si j'avais une petite jeunesse à produire, ça me ferait de fameuses recettes par ici. Car dans ce cabaret du cœur volant, il vient des gens de la haute. Mais, soupira la mégère, j'ai pas de fille. Ah, il aurait mieux valu pour moi d'en avoir une, à la place de cet imbécile de Pierre. Ne voulait-il pas que ça se mêle d'être honnête? Honnête! Voyez-vous ce monsieur ? Et, tout en haussant les épaules, la Frochard, après avoir jeté un coup d'œil sur la place, s'en alla en disant « Il n'y a plus un chat. Je reviendrai pour le coche de Normandie. » En ce moment, en effet, les passants devenaient rares. Seule une femme vêtue comme le sont les ouvrières se montrait dans les environs. Mais la Frochard n'avait pas jugé qu'il y eût une aumône à récolter de ce côté. La personne dont il s'agit semblait en proie à quelque violente émotion. Elle s'avançait sur le pont neuf, d'un air inquiet, comme si elle eût craint d'être suivie, tournant la tête à chaque instant, puis reprenant sa marche d'un pas hésitant. Elle s'était approchée du parapet et se mit à contempler l'eau qui s'engouffrait avec un bruit sinistre entre les arches du pont. Elle hésita de nouveau. Puis, au bout de quelques secondes, elle se rejeta vivement en arrière. Un bateau glissait sur la Seine et des mariniers étaient occupés à décharger un chaland sur la rive. L'inconnu se remit en marche, mais en rebroussant chemin vers le quai. Elle se tordait les bras comme si elle eût été sur le coup d'une violente torture de l'âme. C'était une grande et belle fille, un de ces types de parisiennes des faubourgs, dont la stature vigoureuse n'exclut pas la grâce. On sentait, en la voyant, qu'une profonde douleur avait envahi son âme. Il y avait dans ses yeux une expression sauvage, où l'effarement se mêlait à de rapides éclairs de violence, où se décelaient le désespoir et le remords. Que venait faire cette femme sur le pont neuf à l'heure où naissait le crépuscule? Pourquoi cette contemplation fiévreuse de l'eau qui donne le vertige aux désespérés? Pourquoi cette hésitation qui la ramenait sur le quai, devant ce cabaret d'où s'envolaient, par la croisée ouverte, des chants d'ivrognes, des éclats de rire, des vociférations d'abrutis, et, dominant tout ce tapage énergumène, la voix de Jacques Frochard, fils aîné de la mendiante, entonnant d'une voix avinée quelques chansons populaires? Pour s'en rendre bien compte, il faut connaître l'histoire de cette jeune femme aux allures si étranges. Il faut savoir, de cette malheureuse, résolue à en finir avec une existence de honte et de remords, n'est venue là que pour se précipiter dans le fleuve. Et que si elle a retardé l'exécution de son sinistre projet, c'est qu'il fait jour, et que la voyant se jeter à l'eau, quelques passants pourraient voler à son secours. Or, elle ne veut pas qu'on la sauve. Et la pauvre désespérée se laisse tomber sur un banc pour y attendre la venue complète de la nuit. Cette malheureuse jeune femme se nommait Marianne Vautier. Elle ne se souvenait guère des premières années de son enfance. Élevée par une tante, elle avait été placée par celle-ci, dès l'âge de 12 ans, en apprentissage chez une couturière. Elle y était devenue une bonne ouvrière, connaissant parfaitement son métier. Aussi ne manquait-elle jamais d'ouvrage et veillait-elle souvent, chez elle, pour augmenter ses économies. Marianne était ce que l'on peut appeler une brave fille dans toute l'acceptation du mot. Très rieuse de sa nature, elle savait si bien mettre en train ses camarades qu'on l'adorait à l'atelier, où chacune aurait voulu l'avoir pour amie intime. En outre, tout le monde l'estimait, parce qu'on la savait très honnête, très obligeante et de bons conseils. D'aucune, parmi les plus hardies, il y en a toujours dans les ateliers, essayait bien de la taquiner un peu sur son obstination à repousser les amoureux. On la traitait alors de petite Jeanne d'Arc. « C'est mon affaire à moi, » disait-elle en riant, « si je veux coiffer Sainte-Catherine. » Mais tout cela ne dépassait jamais les bornes de la plaisanterie inoffensive. Marianne avait, comme on dit vulgairement, le cœur sur la main. Elle en donna la preuve lorsqu'une des ouvrières de l'atelier, Mademoiselle Bachelin, mourut subitement, laissant un petit enfant sans soutien. Bien qu'elle ne fût pas particulièrement liée avec la défunte, plus âgée qu'elle, Marianne Vautier se joignit à celles qui proposèrent de venir au secours de l'orphelin. Ces demoiselles accueillirent favorablement la pensée de se charger du pauvre petit être et de l'élever comme l'enfant de l'atelier. On avait pour cela tenu conseil. Et lorsque tout fut convenu, arrêté, on alla en masse faire part de cette grande détermination à la patronne de l'atelier, Madame Poitevin. Celle-ci voulut, elle aussi, apporter son obole à cette bonne œuvre. Puis elle se chargea de réglementer, comme elle devait l'être, cette charitable combinaison. Il fut décidé que les ouvrières prélèveraient une petite part de leur paye de chaque semaine et que cet argent serait placé dans une tirelire où ces demoiselles viendraient verser leur offrande. La plus ancienne parmi les ouvrières, la nièce de la patronne, fut désignée à l'unanimité comme trésorière. Celle-ci tenait les comptes. On ne prélevait sur la masse que la somme nécessaire à l'entretien de l'enfant. Le reste devait plus tard former un petit capital destiné à subvenir aux besoins de son éducation. Marianne avait applaudi lorsque ses camarades avaient décidé qu'elles adopteraient, comme leur enfant à elles toutes, le fils de la pauvre Madeleine. Elle ne manqua jamais chaque semaine d'aller verser son offrande dans la tirelire. Voilà pour ce qui concernait le cœur de l'ouvrière. Quant à sa sagesse, c'était bien autre chose encore. Marianne, à 20 ans, avait eu déjà à repousser bien des soupirants. Rieuse avec ses camarades d'atelier, elle prenait l'air sérieux et froid lorsqu'un galant se présentait. Quand on la regardait trop en face, elle avait une façon de toiser son monde qui décourageait les plus entreprenants. Et si, malgré tout, quelque audacieux s'enhardissait trop, Marianne avait la main leste et assez forte pour enlever à l'audacieux l'envie de recommencer. Un jour, qu'elle avait évincé assez brusquement un amoureux, celui-ci lui adressa cette prédiction. « Patience, la belle! Vous ne serez pas toujours aussi sauvage. Vous trouverez un jour votre maître. » Cette prédiction ne devait malheureusement pas tarder à se réaliser. Marianne était depuis quelque temps en butte aux persécutions de galants qu'elle avait assez lestement éconduit. Ses garnements s'entendirent pour lui faire payer cher ses dédains. Un soir, qu'elle se sentit suivie, elle hâtait le pas, lorsque tout à coup, au détour d'une rue, elle se trouva prise, sans savoir comment, au milieu d'une bande de vauriens. Il n'y avait pas à essayer de s'esquiver. Il n'était plus temps. Le cercle s'était refermé autour d'elle. Pour éviter d'être entraînée de force, elle n'avait que la ressource d'appeler au secours. Elle poussa des cris de détresse. Ces cris furent entendus par un jeune homme qui venait, paraît-il, au même moment, rejoindre les vauriens qui entouraient la jeune fille, car il s'écria en voyant Marianne. « Mais je la connais, cette demoiselle! C'est la belle Marianne !» En entendant prononcer son nom par un inconnu, la jeune fille sentit naître en elle, après une terreur folle, l'espérance qu'elle allait être sauvée. Et son cœur éprouva, pour cet inconnu qui venait à son secours, un sentiment de gratitude lorsqu'elle l'entendit ajouter. « À bas les pattes, vous autres! Et le premier qui touche à un cheveu de mademoiselle, je lui fais son affaire !» À cette déclaration, il y eut une sourde révolte parmi les vauriens qui tenaient toujours leur victime par les bras. « Ah, ça !» s'exclama l'un d'eux en toisant le défenseur improvisé. « Est-ce qu'elle n'est pas à nous comme à toi ?»« C'est ce que nous allons voir !» cria l'inconnu en levant le bâton qu'il tenait à la main. Et, sans ajouter une menace, il se mit à faire manœuvrer sa canne, frappant à coups redoublés un peu partout autour de lui. Si bien qu'il mit bientôt toute la bande en déroute. Alors, se tournant vers Marianne, l'inconnu lui dit « Vous êtes libre, mademoiselle !» Et comme il s'essuyait le front, Marianne vit que la main du courageux jeune homme était couverte de sang. « Vous êtes blessée ? » fit-elle. « Oh, ce n'est rien qu'une égratignure. On en a vu bien d'autres dans ma famille. » Et il ajouta en saluant de la tête. « Maintenant, filez bien vite chez vous. Et soyez tranquille, je marche derrière. » Marianne se remit en route très émotionnée, et tout en marchant, elle cherchait dans son esprit une formule pour remercier celui qui avait si courageusement pris sa défense. Arrivée à la porte de la maison qu'elle habitait, elle se tourna vers le jeune homme et lui dit « Vous m'avez rendu un bien grand service, monsieur, et je ne sais comment reconnaître… » Il ne répondit pas, mais son regard avait cherché celui de la jeune fille, et celle-ci sentit quelque chose d'étrange se passer en elle. Elle voulut baisser les yeux, mais ils restaient comme rivés sur ceux de l'inconnu. Une rougeur subite envahit les joues de Marianne. Elle demeurait là, muette, devant son sauveur, sans penser qu'elle était à la porte de son domicile, qu'il était tard et qu'il serait convenable de remercier tout de suite et de se retirer. Involontairement, elle restait en présence du jeune homme. Et pour avoir un prétexte d'agir ainsi, elle dit avec vivacité « Je vois bien que vous êtes blessée plus gravement que vous ne le disiez. « Eh bien, mademoiselle, ça me rappellera plus longtemps que j'ai eu le bonheur de venir à votre secours. » Cette fois, Marianne était interdite. Les paroles de l'inconnu avaient eu un écho dans son cœur. « Votre conduite, fit-elle avec un léger tremblement dans la voix, est de celle qui… » Elle hésitait. « N'allez-vous pas m'offrir une récompense honnête ? » interrompit en souriant le jeune homme. Et son regard plongea de nouveau dans celui de Marianne. La jeune fille demeura les yeux attachés sur son sauveur jusqu'à ce qu'il eût disparu au détour de la rue. Lorsqu'elle ne put plus l'apercevoir, elle resta encore là, comme absorbée dans une profonde méditation. Que lui était-il arrivé? Quel changement venait de s'opérer en elle? Pourquoi cette mélancolie subite? Pourquoi vint-il à Marianne l'idée que l'inconnu s'était caché dans l'encoignure de la rue et qu'il allait revenir sur ses pas? Pourquoi éprouva-t-elle comme un désappointement de s'être trompée? Et le lendemain, au sortir de l'atelier, pourquoi marche-t-elle lentement, comme si elle eût espéré voir arriver son sauveur de la veille? Et, en se sentant suivre, pourquoi eut-elle le pressentiment que c'était lui? Pourquoi fut-elle heureuse de penser qu'elle allait le revoir, qu'il allait lui parler? Hélas, il y a là tout le secret des amours naissantes. Marianne Vautier se laissa aller à accepter les hommages de l'inconnu. Peu à peu, elle consentit à y répondre. Elle se laissa prendre aux promesses d'amour éternel. Elle fut la plus heureuse des femmes dans les commencements de sa liaison avec Jacques Frochard. Puis arriva le désenchantement. Marianne s'était trompée sur le compte de son amant. Celui-ci avait agi avec une rare habileté pour arriver à ses fins. Elle l'avait aimé dès la première heure de leur rencontre. Elle s'était donnée à lui sans penser à prendre des garanties pour l'avenir. Elle ne voyait que Jacques, elle ne vivait que pour Jacques. Et le premier nuage survenant dans leur liaison trouva encore la grande fille, toujours et plus jamais disposée à se montrer conciliante. Elle excusait les emportements de Jacques, et lorsqu'elle aurait pu lui faire honte de sa paresse et de ses exigences, toujours injustes et de plus en plus grandes, elle se disait qu'à force de patience et de douceur, elle arriverait à le corriger. « Je lui donnerai l'exemple, » pensait-elle, « et me voyant travailler pour lui, il aura bien certainement honte de sa paresse. » Et elle en concluait que Jacques finirait par se mettre résolument au travail pour lui rendre la vie douce et heureuse. Pour cela, il ne lui fallait que sacrifier quelques mauvaises habitudes et surtout rompre avec les connaissances déplorables qu'il fréquentait. Elle espérait bien l'y décider. Et, se disait-elle en se berçant d'illusions, je lui ferai un intérieur si agréable, si heureux, qu'il ne pourra plus jamais s'éloigner de moi. Pauvre Marianne, pauvre fille animée, malgré sa chute, des meilleurs sentiments. Elle supposait que Jacques, le débauché, le querelleur, le paresseux, s'amenderait et ne vivrait plus que pour elle. Hélas, ces douces illusions, la plus sombre réalité devait bientôt les dissiper. Après avoir laissé supposer qu'il se corrigerait, Jacques retomba de plus belle dans sa vie de paresse et de débauche. Marianne en éprouva un chagrin violent. Mais elle ne fit rien pour rompre avec celui qui avait si mal répondu à ses espérances et à ses exhortations. Elle était bien décidément sous le joug. Et le pouvoir qu'exerçait sur elle celui qui avait su devenir son maître était si grand, si absolu, que la malheureuse perdit peu à peu toute énergie, toute volonté. Il y avait loin maintenant de cette femme timorée, tremblant sous le regard de Jacques, à la fille qui repoussait si énergiquement les audacieux et tirait vanité de son indépendance. Marianne ne se sentait plus le courage d'essayer même une révolte contre son cœur si faible et si lâche. Elle obéissait aveuglément, apportant chaque semaine sa paye à l'homme dégradé qui vivait ainsi de son travail à elle, comme il vivait du travail de sa mère, la mendiante, et de son frère, le remouleur. C'est en vain que l'ouvrière acquit la conviction que tout son argent passait en débauche avec les camarades de cabaret. Il suffisait à Jacques de lui dire brutalement « Je te donne la préférence sur 20 autres qui sont bien aussi belles que toi » pour que la pauvre fille se démunit de ses petites économies et, ensuite, de quelques bijoux, fruits de ses longues soirées de travail. Et le cynique gredin acceptait le tout avec un calme superbe, comme s'il se fût agi d'une redevance légitimement perçue. Ne savait-il pas depuis longtemps que Marianne était sous sa domination absolue? Ne savait-il pas qu'il jouait vis-à-vis d'elle le rôle du dompteur qui force sa lionne à se coucher à ses pieds et la tient soumise, obéissante, fascinée sous son regard? Il n'y a pas de si bon métier qui n'ait ses temps de chômage. L'ouvrière la plus habile et la plus laborieuse est bien forcée alors de rester chez elle les bras croisés. Marianne avait passé par là plus d'une fois sans avoir trop souffert. Mais à présent que grâce à Jacques Frochard, toutes ses économies, toutes ses ressources avaient été dissipées chez le marchand de vin ou dans les maisons de jeu, elle se demandait comment on ferait pour vivre quand les mauvais jours reviendraient. Jacques n'admettait pas que cela fût possible et que la caisse restât vide parce que l'aiguille ne marcherait plus. La situation tant redoutée ne tarda pas à se produire. La morte saison arriva fatalement, comme tous les ans. Marianne, avant d'avoir rencontré Jacques, prenait alors sur ses économies ce qui lui manquait pour vivre. Mais depuis longtemps, la chose n'était plus possible. Jusque-là, cependant, elle n'avait jamais manqué de déposer fidèlement sa petite offrande dans la tirelire de l'enfant de l'atelier. Elle s'était plusieurs fois privée de déjeuner pour mettre de côté sou à sou la modeste somme. Un matin, au moment où Marianne le quittait pour aller à son ouvrage, le fils de la Frochard la retint. Puis, la regardant comme il savait le faire quand il voulait être obéi, « Marianne, lui dit-il, j'ai besoin d'argent pour demain samedi. »« De l'argent? Tu sais bien, Jacques, que je n'en ai pas. Attends au moins la paix de la semaine prochaine. »«
Attendre? Tu plaisantes? Il m'en faut, te dis-je. J'en veux. Et si tu reviens les mains vides, tant pis pour toi. Je connais plus d'une belle fille qui sera trop heureuse de m'ouvrir sa bourse.
Tu me quitterais pour retourner avec ces filles-là?
te v'la averti. À tantôt.
Oh, Seigneur, où suis-je tombée ? Murmure Marianne en le regardant s'éloigner. Et, pendant quelques minutes, il sembla qu'une transformation allait s'opérer en elle. À voir le regard sévère, presque haineux, qu'elle adressa à l'homme qui venait de la menacer d'un abandon immédiat, on eût pu croire que Marianne se révoltait à la fin et allait se soustraire à la honteuse domination de Jacques. Plongée dans une douloureuse rêverie, elle avait repris le chemin de l'atelier. Une fois assise à la grande table avec les autres ouvrières, elle se mit à l'ouvrage sans proférer une parole. Le jour était à la gaieté, aux éclats de rire, voire même aux chansons légères. Les fenêtres, grandes ouvertes, laissaient pénétrer un air délicieux, et les rayons d'un soleil éclatant caressaient des bras nus et des mains blanches, dont les doigts effilés semblaient jouer bien plus que travailler. Marianne n'entendait et ne voyait rien. Sa pensée était ailleurs. De l'argent. Où en trouverait-elle ? Hélas, elle n'avait plus le moindre petit bijou à vendre ou à mettre en gage. Elle ne possédait plus qu'une seule robe, celle de tous les jours. Et l'odieuse menace de son amant la poursuivait sans cesse. Trahie, abandonnée par lui, elle en mourrait. La journée lui sembla terriblement longue, et pourtant c'était avec effroi qu'elle voyait approcher l'instant de rentrer chez elle et de se retrouver les mains vides en face de Jacques. Quand elle vit ses camarades plier leur tablier de travail et les déposer dans les tiroirs qui leur étaient réservés, il lui sembla que l'heure du supplice allait sonner pour elle. « Hé, Marianne, est-ce que tu ne viens pas ?» lui disait-on en sortant. « Si, si, je n'ai plus que quelques points à faire. » Elle retardait autant que possible l'instant de ce départ qui la faisait trembler. Et cependant, elle ne pouvait rester plus longtemps chez Madame Poitevin, car déjà les domestiques demandaient si elle pouvait balayer l'atelier et mettre tout en ordre. Marianne n'avait plus de prétexte à donner. Depuis longtemps, son ouvrage était achevé. Que faire ? Emprunter ? À qui ? À quelqu'une de ses camarades ? Ne savait-on pas qu'elle vivait avec la plus grande économie ? Les rieuses de l'atelier disaient en parlant d'elle, « Cette sournoise de Marianne, elle se met une bonne petite dot de côté. » Elle n'avait pas répondu, craignant de se trahir. Comment essayer d'emprunter après cela ? Sa tête se troublait. Il y avait de l'effarement dans ses yeux et son esprit acceptait de prime abord les idées les plus extravagantes, les plus contradictoires. Tout à coup, dans son affolement, elle eut un moment de vertige. Elle entendait Jacques, son Jacques à elle, prodiguant à une autre ses douces paroles d'amour. Ses oreilles bourdonnaient, le sang lui affluait au cœur avec violence. Il fallait trouver un moyen, à tout prix. Marianne poussa une exclamation. Elle avait trouvé. Elle irait raconter à Madame Poitevin qu'elle voulait envoyer un peu d'argent à la vieille tante qui l'avait élevée, laquelle était infirme et s'adressait à elle. C'était vraisemblable. Marianne s'arrêta à cette idée et courut frapper à la porte de l'appartement de sa patronne. « Madame est sortie !» lui dit la domestique qui, l'entendant frapper, était accourue. « Sortie ?» Ce mot s'échappa presque dans un cri des lèvres de l'ouvrière. « Sortie ? » reprit-elle. « Pour longtemps ?» Probablement, elle n'a rien dit en partant. Mais alors, à la grande surprise de la bonne, Marianne murmura comme se parlant à soi-même. C'est égal, je l'attendrai. Et tout haut. Je vais rester dans l'atelier pour attendre le retour de madame. Il faut absolument que je lui parle ce soir même. Et laissant là la domestique, l'ouvrière se dirigea vers l'atelier. Puis, la porte refermée derrière elle, Marianne se mit à réfléchir. Certes, dans le premier moment, elle eut tout osé. Mais maintenant, elle se prenait à avoir de nouvelles hésitations. Elle s'était levée et marchait à grands pas dans l'atelier. Parfois, elle s'arrêtait pour écouter. Il lui avait semblé entendre monter. Ah, si ce pouvait être Madame Poitevin! Elle obtiendrait d'elle l'argent dont elle avait besoin. Ou bien, elle saurait se le procurer à quelque prix que ce fût. Même au prix d'une faute. Même au prix... Sous le coup de son amour maudit, elle descendait un à un tous les échelons de l'honnêteté. Et, à force de capitulations successives, elle en était arrivée à admettre comme possible les choses les plus monstrueuses. Elle avait bien encore quelques rares lueurs de bon sens, pendant lesquelles elle voyait clair dans sa vie, et tout son sang se révoltait en elle, tout son courage revenait
pour lui dicter de sages résolutions. Ses retours à la raison étaient, hélas, éphémères. Elle se remit à marcher avec agitation. Dans sa préoccupation, elle ouvrait les tiroirs de la grande table de travail, et ses mains s'y plongeaient, comme si elle eût pensé à y trouver de l'argent. Elle s'en serait emparée peut-être. Jacques ne lui avait-il pas dit « Il me faut de l'argent à tout prix !» À tout prix. Ces mots lui bourdonnaient dans la tête comme pour la rendre folle. À tout prix. Ces paroles maudites qu'elle ressassait mentalement s'acharnaient à troubler son esprit, à l'affoler, à lui faire désirer de trouver quelque objet de valeur dans ses tiroirs où elle fouillait encore, bouleversant tout ce qui passait sous sa main. Et l'heure marchait toujours. Et Madame Poitevin ne revenait pas. Jacques allait s'impatienter. Si elle tardait trop longtemps, il mettrait ses menaces à exécution. Marianne étouffa à cette idée un cri de rage. Inconsciemment, elle courut à la porte qui laissait communiquer l'atelier avec le petit salon de Madame Poitevin. Sous sa main fiévreuse, le hoquet se souleva. La porte était grande ouverte devant elle. Elle pénétra dans le salon, à pas de loup, comme une voleuse de profession. Elle avait peur, son sang se figeait dans ses veines. Elle s'arrêta, écoutant. Si quelqu'un survenait pour la surprendre. Cette idée d'être soupçonnée lui fit faire un pas de retraite. Elle voulait s'enfuir, mais quelque chose de plus fort que sa volonté la retenait dans ce petit salon. Pourquoi ? Elle ne s'en était pas rendue compte, et cependant, elle se glissait tout le long des meubles, touchant à tout. Soudain, la pendule sonna. À ce bruit, Marianne sursauta. Elle avait de ces frayeurs subites qui font tressaillir les voleurs au moindre bruit. Elle était donc une voleuse aussi, elle ? Mais cette pensée qui eut soulevé, il y a quelques instants à peine, son cœur de dégoût, cette pensée s'acclimatait insensiblement dans sa tête. Elle osait maintenant. Les yeux fixés sur la pendule, elle éprouva une commotion terrible en pensant que depuis plus d'une heure, Jacques l'attendait. Cette fois, elle le sentait bien, elle eût volé si elle eût trouvé l'occasion. Et dans son désespoir, elle ne prenait plus de précautions pour étouffer le bruit de ses pas. Elle piétinait comme une tigresse qui attend une proie au passage. Il lui fallait cette proie, à elle, à tout prix. En ce moment, les mauvais instincts s'éveillaient dans son cœur avec une violence extrême. Elle descendait avec une rapidité vertigineuse dans l'abîme qui devait fatalement engloutir tout ce qu'il y avait encore d'honnête en elle. Ses traits se contractaient, et sur son visage, autrefois si calme, se lisait une expression de froide cruauté. Tout à coup, elle bondit vers un petit chiffonnier en bois de rose. Il pouvait y avoir là de l'argent ou des bijoux. Elle n'hésita pas. Les mains en avant, elle voulut ouvrir le tiroir. Mais elle s'arrêta. Sur ce meuble, qu'elle allait forcer, se trouvait la tirelire où l'on mettait l'argent destiné à l'enfant de Madeleine. Elle s'arrêta, la malheureuse, le corps saisi d'un tressaillement, le visage blême, les yeux fixés sur la tirelire. Elle s'arrêta dans l'accomplissement du crime qu'elle allait commettre, car il lui semblait entendre la voix de Madeleine lui murmurer aux oreilles. Voleuse, voleuse, voleuse. Que se passa-t-il en elle, en ce moment de terrible émotion? D'où vient que cette femme perdit, en quelques secondes, tous les sentiments généreux, au point d'en arriver au dernier degré de l'abjection? Une voix venait de se faire entendre, une voix partie de la rue, la voix de Jacques, enfin, qui disait « Je m'en vais, Marianne, et pour toujours !» C'en était fait. Rien ne pouvait plus retenir la malheureuse sur la pente fatale où elle glissait. D'un brusque mouvement, elle saisit la tirelire. Comme elle était trop grande pour qu'il fût possible de la cacher, elle la brisa. Tout le contenu de cette tirelire se répandit sur le parquet. Il y avait quelques pièces blanches et des sous. Les sous, économisés par celles qui s'étaient données pour mission d'élever à leurs frais l'enfant de leur infortuné camarade, Madeleine Bachelin. Marianne s'arrêta, le cœur bourrelé de remords, devant cet argent qui appartenait à l'enfant de la morte. Mais en ce moment, la voix de Jacques retentit de nouveau. Il chantait cette fois en s'éloignant. « Lise a quitté son amoureux, on en perd une, on en reprend deux. » Marianne eut un long tressaillement. Sa tête s'égara tout à fait, elle prit l'argent à pleine main et elle s'enfuit. À la porte, elle rencontra la servante. Interdite, elle voulut poursuivre son chemin. Mais cette fille, en voyant son trouble, essaya de l'arrêter par le bras.
D'un geste violent, Marianne la repoussa. Elle arriva en courant jusqu'à la porte de l'appartement et la franchit d'un bond. Dans l'escalier, elle se rencontra face à face avec Madame Poitevin. Marianne ne s'arrêta pas. Elle avait hâte de rejoindre Jacques. Il avait fait d'elle une voleuse. Elle lui appartenait désormais plus entièrement encore qu'elle ne lui avait appartenu jusque-là. Il n'était plus son amant, il était son maître. Elle était non sa maîtresse, mais son esclave. Elle venait de franchir la porte cochère et d'arriver dans la rue. À ce moment, elle s'arrêta, tout à coup, et demeura comme pétrifiée, les pieds rivés au sol. La croisée s'était ouverte au-dessus de sa tête, et la bonne de Madame Poitevin criait « Arrêtez la voleuse ! Arrêtez la voleuse !» Marianne fit un effort désespéré et réussit à courir. Il était temps. Les soldats du guet s'étaient mis à sa poursuite. Tout le monde criait « Arrêtez-la ! C'est une voleuse !» Elle trouva une agilité incroyable pour fuir, et, arrivée au détour de la rue, elle se glissa sans être vue dans une allée. Et là, blottie dans un coin, elle entendit le pas des soldats qui couraient. Ils dépassèrent l'allée. Elle se crut sauvée. Ils avaient perdu sa trace. Alors, le cœur battant avec violence, la tête en feu, Marianne reprit sa course folle. Elle arriva haletante et remit l'argent à Jacques. Il la reçut avec un ricanement moqueur.
« Tu as bien fait de venir, lui dit-il, car j'allais m'en aller. »
Puis, sans s'informer du moyen qu'elle avait employé pour se procurer cet argent, il ajouta
« Je t'attends à souper avec les amis. Tu viendras, je le veux. »
À souper ? C'était non pour payer quelques pressantes dettes, mais bien pour souper avec des amis que Jacques avait fait d'elle une voleuse. À cette pensée, un remords étreignit Marianne au cœur. La colère lui monta au cerveau. Elle vit clairement dans quel abîme elle était tombée. Et, retrouvant un courage qui depuis longtemps l'avait abandonnée, elle répondit « Je n'irai pas !» Jacques Frochard eut alors un de ces regards qui enlevait à la jeune femme toute volonté de résistance. Il lui saisit le bras en disant « Tu viendras, je le veux !» Puis, tournant les talons, il la laissa sans force, brisée par le souvenir et l'émotion. La malheureuse suffoquait. Les sanglots l'étouffaient. Elle détourna les yeux pour ne plus être tentée de suivre Jacques. La raison lui revint, escortée des plus cuisants remords. Elle eut honte d'elle-même, et la pensée lui vint, pour échapper au misérable qui l'avait perdu, de se réfugier dans la mort.